collège. Il se fait poursuivre par des gars de son école. Du coup, il se cache dans une librairie et là, il voit le libraire qui est en train de lire un livre.
Ben après, au début, pour lui, c'est juste une histoire normale. Enfin, il capte pas trop ce qu'il y a vraiment de dangereux ou bizarre comme le libraire disait.
Bah, il y a un néant qui détruit tout.
Un petit garçon qui doit sauver son monde parce qu'il va être détruit.
Du coup, il va très loin.
En fait, il va arriver devant les statues qui vont lui dire qu'il a besoin d'un être humain pour renommer l'impératrice du royaume. Et il va après aller demander de l'aide au petit garçon qui lit l'histoire.
Il va devenir le héros un peu aussi de l'histoire, donc il y a un peu deux héros, on va dire, Atrio et lui. Au final, après, il se rend compte que c'est comme deux mondes parallèles, en fait, qui sont connectés, on va dire, par ce livre, justement.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Habiter à l'intérieur d'un livre. Je vous souhaite d'avoir déjà connu ou de connaître un jour cette expérience étonnante. Avoir les deux pieds dans un autre monde. Vivre avec les personnages du roman. À chaque fois qu'on est obligé de refermer le bouquin, parce qu'on doit descendre du bus ou parce qu'on tombe de sommeil, on quitte à regret un univers avec la hâte d'y retourner le plus vite possible. Eh bien, l'enfant dont nous allons parler aujourd'hui le fait pour de vrai. Il entre dans le livre. Plongez avec nous dans l'Histoire sans fin ce dimanche. C'est un roman allemand adapté au cinéma dans les années 1980. Bastien lit un livre et se retrouve dedans. On y croise un dragon porte-bonheur et plein d'autres créatures fantastiques. Le film est un peu daté, certes, les effets spéciaux feront ricaner les enfants d'aujourd'hui, mais le récit, lui, ne vieillira jamais. L'Histoire sans fin raconte les pouvoirs immenses du rêve et aussi ses dangers. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission préparée par Mao de Butler, réalisée par Christophe Humbert. Pierre-Yves Derolin est à la technique et j'ai le grand plaisir d'accueillir deux invités pour parler de cette histoire sans fin. Bonjour Alice Zeniter.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme un empire dans un empire, c'est votre dernier roman paru chez Flammarion. Et vous venez de faire paraître aux éditions de L'Arche un texte qui fait écho à notre sujet du jour. Je suis une fille sans histoire, réflexion sur le pouvoir de la fiction et sur la façon dont sont racontées les histoires. C'est la lectrice tout autant que l'écrivaine qui nous intéresse aujourd'hui. À quel âge avez-vous lu L'Histoire sans fin ?
Je pense que je devais avoir 8 ou 9 ans.
Quel souvenir en gardez-vous ?
Le souvenir d'avoir traversé une succession de mondes grâce à ce livre et le souvenir d'avoir pendant un temps frôlé du doigt la possibilité qu'on puisse basculer dans les livres qu'on aime et puis de m'apercevoir que non, en fait, Bastien le peut, mais moi je suis toujours à la porte du livre dans lequel Bastien bascule dans le livre.
C'est votre premier choc littéraire ?
Oui, je pense, oui.
Ma deuxième invitée est illustratrice et autrice. Bonjour Camille Jourdi.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes la créatrice des bandes dessinées Rosalie Bloom. Vous avez aussi publié chez Actes Sud cette BD au charme fou qui s'appelle Les Vermeils. Et votre livre le plus récent est co-signé avec Lolita Séchant, un album pour les tout petits intitulé Caché ou pas, j'arrive. Et vous, c'est votre goût pour le film L'Histoire sans fin qui nous a donné envie de vous inviter, Camille Jourdi. Quel souvenir avez-vous de votre première fois devant ce film ?
Je pense que c'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma, en fait. Je m'en rappelle vraiment très bien de la musique et du film, et de cette ambiance incroyable. Et puis effectivement, il a un pouvoir... Enfin, on s'identifie complètement, quoi, dans ce film.
Atreyu. L'impératrice avait déjà envoyé chercher ce valeureux guerrier. Quand enfin il apparut sur la terrasse de la tour d'ivoire, il portait en lui tous les espoirs de Fantasia.
Ouvrage publié en 1979, L'Histoire sans fin, c'est donc un roman allemand de Michael Ende. L'une d'entre vous est-elle capable de prononcer le titre du livre en allemand ? Alice Zeniter.
Non.
Je tente alors. Die unendliche Geschichte. Voilà. C'est devenu un classique de la littérature jeunesse, traduit en plus de 45 langues et adapté au cinéma par Wolfgang Petersen en 1984. The Never Ending Story en anglais. C'est donc l'histoire d'un enfant qui lit un livre. Le petit Bastien Balthazar Bux est un garçon timide, malmené par ses camarades de classe. Un jour, il tente d'échapper à ses camarades très méchants. Il se réfugie dans une librairie et il tombe sur un roman intitulé « L'Histoire sans fin ». Il va voler ce livre et s'installer dans le grenier de son école pour le lire. On suit donc en parallèle Bastien qui lit son roman et le héros de ce roman qui s'appelle Atreyu.
C'est une mise en abîme, comme la boîte de vache qui rit, sur laquelle on voit une vache qui rit, qui porte en boucle d'oreille une boîte de vache qui rit. Est-ce que ça vous convient comme catégorie littéraire à Les Zénithaires? C'est un roman vache qui rit?
Alors, c'est un roman vache qui rit. C'est un roman de la métalepse, aussi pour prendre une figure littéraire avec un terme plus officiellement littéraire. Mm-hmm. Vache qui rit étant pas encore tout à fait reconnu
ça ne serait
parmi les chercheurs en littérature. Et la métalepse, en fait, c'est cette contamination de plusieurs niveaux de fiction qui ne devraient pas se produire. C'est-à-dire que normalement, par exemple, le narrateur, si c'est un narrateur omniscient, il parle pas avec les personnages. Les personnages ne vont jamais à la recherche de leur auteur. Quelqu'un qui lit un livre ne doit pas, en fait, tout à coup se trouver soit happé dans le livre, soit s'apercevoir qu'il est en fait en train de lire son histoire à lui, etc., comme c'est le cas chez Cortazar. Donc, il y a des tas d'exemples comme ça de métalepse, mais l'histoire sans fin, c'est vraiment uniquement une histoire de métalepse, donc une histoire de boîte de vache qui rit.
L'une des images qui reste gravée dans la mémoire Camille Jourdi, c'est celle de ce petit garçon dans son grenier, la couverture sur la tête, qui lit ce gros livre. Il y a une manière de mettre en scène la lecture et le délice de la lecture qui est très bien faite.
Oui, alors c'est vrai que je m'identifiais, mais alors complètement à Bastien.
Et plus qu'à Atreyu, le héros du roman.
Ben oui, je crois. Et alors moi, j'étais pas une grande lectrice. J'en avais un petit peu honte parce que j'étais pas un enfant qui lisait tellement. Mais par contre, la mise en scène pour la lecture, je l'ai beaucoup pratiquée. C'est-à-dire aller en bibliothèque, choisir un livre, ça j'adorais. J'avais le plaisir de choisir l'objet du livre, sa couverture, etc. Et je me faisais tout un univers, une cabane. Je choisissais l'endroit pour le lire. Mais ça s'arrêtait un peu là, parce que j'avais du mal à me concentrer. Mais je pense que ça a nourri énormément mon imaginaire. Par contre, d'imaginer ce qu'il y avait dans le livre, en fait, tout simplement. De mettre en scène la possibilité de tout ce qui pouvait arriver. Quoi.
Alors, qu'y a-t-il dans le roman que Bastien lit dans le grenier? On va laisser les enfants nous raconter. Caroline Pomès, notre reporter, a tendu son micro à Moliette, dans les Landes, à ceux et celles qui avaient vu le film, qui date de 1984 quand même, mais on trouve des enfants aujourd'hui qui l'ont vu. Ils se souviennent surtout des créatures qui peuplent cette histoire.
Barbatruc.
Le garçon, je l'aime bien, là... Du monde du livre, donc pas le monde humain.
Parce qu'on se dit que ça peut être réel.
C'était un chien avec un corps de dragon.
Le dragon, là, je le trouve trop bizarre. Quand j'étais petite, il me faisait peur. Parce que ses yeux, il avait des yeux d'humain, avec une tête de chien et un corps de dragon. Et donc, il me faisait très peur. Mais c'est parce que, vu que c'est un film plutôt vieux, mais maintenant, en fait, je sais que c'est une machine. Donc, ça me fait beaucoup moins, enfin, ça me fait plus peur. Et pouvoir voler dans les airs comme un oiseau et être libre, moi franchement, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais bon, après, il a vraiment une tête trop bizarre pour pouvoir monter dessus.
Il y a deux personnes dans la forêt avec deux animaux trop bizarres. Et il y a un méga monstre de pierre qui arrive avec sa bécane, comme ça, de pierre. Et il mange des cailloux apparemment. Bizarre.
Bah, le monstre de pierre, sa tête, genre, elle est un peu moche, quoi, et ça fait peur. Genre, ses dents, après, elles sont toutes décalées, elles font pas tous la même taille. Après, comment il mâche les cailloux, c'est comme s'il mangeait une cracotte où il y a toutes les miettes qui tombent. Sauf que là, c'est des cailloux qui tombent, des grosses pierres. Du coup, j'aimerais pas être en bas de lui, quoi. J'ai pas envie de me prendre la pierre dans la tête.
Sa tête, moi, je trouve, il me fait rire. Genre, dès qu'on sait qu'il est pas méchant, bah, franchement, il est drôle, hein. Genre, il a un peu rien dans la tête, mais bon, c'est pas grave.
Et aussi, il y a comme un gobelin bizarre, genre, on dirait Einstein un peu, mais qui ça fait un peu cramer la tête, parce qu'il n'y a plus de cheveux. Après, il a la chauve-souris énorme, qui est pas très belle.
Et y avait aussi un escargot qui allait vite, une méga tortue, qui est très bizarre. Son cou, il fait genre 20 mètres de longueur. Sa tête, elle est grosse, très grosse. Et il est allergique aux enfants apparemment, très bizarre.
Moi j'ai un peu rien compris en fait, genre il y a plein de trucs en même temps. La femme gobelin là, juste ça lui donne un peu une soupe avec des cerveaux de lézard, des œils de grenouille et tout ça. Donc, c'est un peu dégueu quoi.
Bah après déjà il y a un loup, alors lui on sait même pas à quoi s'y sert.
Ouais mais je pense que c'était un peu la mode à cette époque là, parce que souvent les vieux films des mêmes années... Ils sont souvent un peu dans des contextes un peu spéciaux comme ça. Enfin, à l'époque, on trouvait ça trop génial, alors que maintenant, par exemple, là, sur le film, on voit les fonds verts, quoi.
Voilà, on voit les fonds verts, autrement dit, les trucages sont un peu ratés. Très vieux film qui date de 1984, merci à ses enfants pour le coup de vieux. Que dire effectivement de ce dragon, Alice Zénithière? C'est un personnage important hein, de cette histoire.
Oui, et c'est un scandale. non, c'est, pour moi, c'était vraiment, ça a été la grosse déception de ce film.
De l'adaptation du roman.
C'est ça, c'est que moi, j'ai, alors déjà, il n'a pas le même nom. C'est-à-dire que moi, j'avais un dragon, vraiment, quoi. J'avais un dragon avec un corps en écailles de nacre, des yeux de rubis, et il s'appelait Fuchur. Mm-hmm. Et j'arrive devant le film, et il s'appelle Falcor, et il a une tête de chien. Il est entièrement en fourrure. On dirait un saucisson de chien.
Ouais, mais il est trop mignon, on dirait un doudou.
On dirait un doudou, mais en même temps, sa taille et sa bizarrerie font qu'il est pas tout à fait mignon. Donc j'arrive pas trop à savoir. Enfin, ouais, je sais pas. J'aimerais savoir quel a été le temps de réflexion des équipes artistiques du film, se disant on va pas faire un vrai dragon, on va lui mettre une tête de chien.
Sachant l'effet que vous a fait la lecture de ce livre à 9 ans à Les Zénithières, ne pensez-vous pas que vous auriez été déçu de toute façon, quelle que soit la forme qu'aurait pris ce dragon?
Alors c'est possible, mais par exemple j'avais très très peur de découvrir Atreyu,
petit garçon de l'histoire,
celui qui part à cheval dans le pays imaginaire pour voir les dégâts causés par le néant et avertir des dégâts causés par le néant. Et j'avais d'autant plus peur que j'étais amoureuse d'Atreyu, moi, quand je lisais l'Histoire sans fin à 8 ou 9 ans. Enfin, j'étais Bastien Balthazar Bux et j'étais amoureuse d'Atreyu. Mm-hmm. Et en fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah bah, c'est très bien.
C'est vrai qu'il est voilà. Joli garçon.
Bah, il est très, très joli garçon. Mm. Voilà.
Camille Jourdi, quel personnage vous a le plus marqué, vous, visuellement, dans cette histoire?
Moi, j'aime bien le chien dragon, même je l'ai pas lu le livre, alors, mais je reconnais qu'il a un petit quelque chose d'inquiétant dans son regard. Mais non, moi, j'ai bien aimé le.
Cette tortue est incroyable aussi, Morla le Vénérable. Cette tortue qui parle d'elle en disant « nous ». Vous en souvenez, Alice Zénithière?
Et qui a des sortes de crises d'éternuement, mais qui n'arrivent pas. Donc elle produit tout le temps des sons absolument incroyables dans le film.
Tout lui est égal. Il nous est aussi égal que tout nous soit égal, dit-elle.
Et d'ailleurs, elle est tellement vieille qu'en fait, elle est un peu transformée en paysage. C'est moins une créature qui erre à la surface du pays imaginaire qu'une partie du pays imaginaire, en fait. Elle ressemble à une colline et elle est couverte de mousse, d'arbres. Et elle est hyper intéressante, en fait, cette tortue, parce que contrairement à Atreyu, qui est complètement lancé dans l'action, justement, il va traverser le pays, il est l'émissaire envoyé, comme ça, il faut qu'il retourne la situation, il faut qu'il affronte le néant. Et elle est à un stade d'immobilisme, mais qui est une sagesse. On pourrait dire qu'elle est une sorte de sagesse comme ça, de bouddhique, très très voilà, très très sereine et immobile, mais ça rend Atreyu et Bastien complètement dingues.
Une enfant disait à l'instant d'avoir rien compris au film. C'est vrai que c'est une histoire qui fourmille de rebondissements, Camille Jourdi, avec des créatures étranges, et des lieux fabuleux. On peut tout de même résumer l'histoire, hein, celle qui est racontée dans le livre que lit Bastien, Camille Jourdi.
Oui, en fait, le monde de Fantasia est en train de mourir parce que donc le néant absorbe tout parce que les gens arrêtent de rêver, en fait. Finalement, le scénario, il repose sur pas grand-chose puisqu'on demande à ce petit garçon, Atreyu, visiblement c'est le seul, alors qu'on sait pas bien pourquoi, qui doit partir. C'est vrai qu'il s'encombre pas d'un tout un tas de détails. Il faut que ce soit Atreyu, on sait pas pourquoi, il doit partir sans armes, chercher, on sait pas quoi au départ. Et puis il passe d'un personnage à l'autre qu'il renvoie toujours vers quelqu'un d'autre pour finalement comprendre qu'il doit chercher un enfant humain finalement. Après, c'est là que se passe un peu la mise en abîme, puisqu'il doit chercher un enfant humain qui lui-même doit être en capacité de rêver et de faire exister tout ce monde de fantaisie, quoi.
Et qui sera sans doute le lecteur de cette histoire, à savoir Bastien.
Voilà, qui nous inclut nous aussi, finalement.
Voilà, qui est le lien entre nous et cette histoire. On va écouter un extrait du film à présent. Atreyu, le jeune guerrier intrépide, est chargé donc de sauver Fantasia avec son cheval Artax. Et il traverse une épreuve très douloureuse. C'est toujours Bastien qui lit le livre dans son grenier.
Dorothée Barba sur 25 ans.
Atreyu et Artax avaient parcouru les montagnes argentées, le désert des espoirs ruinés et les tours de cristal. Mais en vain. Il ne leur restait plus qu'une chance de trouver Morla, le vénérable, le sage d'entre les sages de Fantasia, qui vivait dans la colline Carapace, quelque part dans les mortels marécages de la mélancolie.
Allez, viens, Artax, allez! Voilà, c'est bien. Ah, ça va aller.
Chacun sait que celui qui se laisse envahir par la mélancolie sombre dans les marécages.
Encore un effort. Avance, Artax. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Il faut avancer. Qu'est-ce qui te prend? Je vois. C'est trop difficile pour toi. Artax, tu t'enfonces. Fais un effort. Retourne-toi. Vite, retourne-toi. Viens. Artax. Lutte contre la tristesse. Artax. Artax, je t'en prie. Ne te laisse pas envahir par la mélancolie des marécages. Tu dois essayer. Tu dois y arriver. Pour moi. Tu es mon ami. Je t'aime. Artax ! Imbécile de cheval ! Il faut que tu bouges, sinon tu vas mourir. Bouge, s'il te plaît. Je ne te laisserai pas faire. N'abandonne pas. Artax !
Scène tragique de la mort du cheval. Artax s'enfonce dans les marécages de la mélancolie à l'île Zénitaire. C'est un souvenir vif de votre lecture à l'époque.
Oui, parce que je crois que c'est le premier livre que je lis où on me dit finalement la tristesse peut être une maladie mortelle. On peut mourir de mélancolie. Et des années après, je me dis c'est le premier livre en fait qui me parle de dépression, alors que je suis qu'une enfant et que c'est pas un sujet qu'on aborde vraiment pour les enfants. Et que il y a cette chose en plus, enfin cette scène, elle est d'autant plus difficile que on pourrait, enfin je veux dire, des héros qui perdent leur cheval, il y en a plein. Toutes les histoires de western, tout ça, c'est quelque chose qui se répète beaucoup. Mais là, le simple fait que Artax meurt de mélancolie, il devient autre chose qu'une monture. S'il est envahi par la tristesse, c'est que il est une créature avec des sentiments, etc. Et donc, il est finalement l'égal d'Atreyu. Donc, c'est pas juste une monture qui meurt. Et d'ailleurs, l'extrait du film le dit, tu es mon ami, je t'aime. C'est un être avec qui Atreyu a une relation d'égal à égal. Et donc, c'est encore pire.
Il y a un ascenseur émotionnel en plus, Camille Jourdi, dans cette scène. C'est qu'on a l'impression à un moment que c'est une plaisanterie, qu'il est en train de faire une blague, le cheval. Et puis finalement, non, il s'enfonce.
Oui, bon, ça m'avait traumatisée, cette scène au cinéma. Je pense que je l'avais vu très petite, ce film. Et puis je trouve quand même qu'on s'identifie doublement du fait de suivre à la fois l'aventure avec Atreyu et Artax, et puis Bastien. Et je me rappelle avoir dit ça, je devais être vraiment petite, je me rappelle avoir dit ça à mon père en lui disant, oh, t'as vu, il pleure, et puis Bastien aussi, et puis ben, moi aussi en fait. Et
donc ça fait trois couches de larmes. Il y a un plaisir toponymique aussi à suivre cette histoire. La toponymie, c'est les noms des lieux. Voilà, le cheval sombre dans les marécages de la mélancolie. Il y a aussi la mer des possibilités dans cette histoire, ainsi que le désert multicolore. Vous qui inventez des univers, vous qui inventez des mondes, Camille Jourdi, vous vous souvenez précisément des noms, des endroits dans l'Histoire sans fin?
Là, je m'en souviens parce que j'ai regardé le film avec mes enfants, puis j'avais envie de voir si ça marchait encore. Enfin bon, mais je m'en souvenais plus, mais je pense que, comme vous parlez donc la BD que j'ai dessinée et écrite...
Les Vermeils.
Oui, donc il est question de marée à un moment. Moi, j'y avais plus du tout pensé, mais je sais que c'est un ami auteur de BD qui a lu mon livre et qui m'a dit, mais c'est marrant, dans les marées, ça fait penser au marécage, de la mélancolie. Et j'avais oublié, mais c'est évident que c'était présent et que ça, c'était dans un coin de ma tête quand j'ai fait cette scène.
Le fantôme d'Atreyu plane sur votre bande dessinée.
Oh, je pense. Mais je pense que j'ai convoqué un peu tout ce que j'avais aimé enfant pour le remettre dans la BD. Alors, mais sans forcément toujours en avoir conscience. Mais c'est sûr que ça a fait partie des films qui m'ont beaucoup marqué. Donc, oui.
Les noms des lieux dans cette histoire, effectivement, à l'île Zénitaire, ont une grande importance.
Oui, et je dirais même au-delà du nom des lieux, les noms ont une immense importance. En fait, même le garçon du monde humain, même Bastien, il s'appelle Bastien Balthazar Bux, il arrive avec un nom comme ça, tout en consonance, qui fait quelque chose en bouche. Et ensuite, on va avoir des personnages voilà, qui s'appellent Graugram, qui s'appellent Igramul, qui s'appellent Gmork. Il y a une sorte de...
Et ça marche dans toutes les langues, hein, en allemand, en version originale, dans toutes les traductions.
J'imagine. Et le fait, du coup, de devoir trouver un nom pour cette petite impératrice... quand on existe dans un monde où tous les noms sont tellement formidables. Enfin, c'est quelque chose qui est génial aussi, qui pousse à nous demander en tant que lecteurs et lectrices, mais si je devais inventer un nom, si moi je devais donner un nom, quel nom je pourrais faire? Et alors on hybride ce que nous donne Michael Ende pour essayer d'avoir des choses aussi formidables, des objets en fait sonores qui soient des tels plaisirs.
Allez, voici un peu de musique pour nous remettre de nos émotions et quitter les marécages de la mélancolie. C'était Jungle sur France Inter, Keep Moving, choisi par Jean-Baptiste Audibert.
Dorothée Barbe.
Alice Zeniter et Camille Jourdi sont les invités de Barbatruc ce dimanche. Nous parlons de L'Histoire sans fin, un roman allemand paru en 1979 et adapté au cinéma en 1984. Film culte pour toute une génération que connaissent encore aujourd'hui les enfants. On va en venir à un autre moment marquant de cette histoire. Le moment où Bastien, le lecteur du livre, s'aperçoit que ses réactions parviennent au protagoniste de l'histoire qu'il est en train de lire.
C'est impossible. Ils n'ont pas pu m'entendre.
Et pourtant si, Bastien, Atreyu et la tortue ont bien entendu ce cri. En tout cas, ils ont sursauté. C'est absolument fascinant ce qui se passe dans cette scène-là, Alice Zeniter.
Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir de tout spectateur et spectatrice de fiction, de pouvoir intervenir, de pouvoir faire passer un jugement au personnage que ne va pas par là, ou quand on regarde des films d'horreur, ce que moi je fais beaucoup, non, on ne se sépare pas, on ne se sépare pas quand un tueur rôde sur le terrain, c'est absurde. Dans les westerns, non, on ne prend pas ce défilé, il va évidemment y avoir une embuscade, et donc cette envie, voilà, de pouvoir faire passer cette interjection de base du non. Et là, quand Bastien crie, parce que dans le livre, Atreyu va se faire dévorer, et que le cri se répercute comme ça dans le monde d'Atreyu, il y a un « enfin, je peux intervenir, je peux aider ». Ce qui va devenir beaucoup plus compliqué après dans le livre, qui n'existe pas dans le film. On va voir que les possibilités d'intervention du lecteur peuvent devenir dictatoriales.
C'est vrai que le film a en fait adapté seulement la moitié du roman, et c'est la raison pour laquelle l'auteur, Michael Ende, était très déçu par cette adaptation au cinéma de son roman. La frustration du lecteur ou de la lectrice qui ne peut pas interagir avec l'histoire, l'impression d'habiter dans un livre qu'on est en train de lire, c'est ce qui est au cœur de cette expérience littéraire. Les enfants et les ados que Caroline Pommès a rencontrés connaissent ça très bien.
Ça nous fait rentrer presque dans un monde extérieur, et donc on peut se sentir un peu quelqu'un d'autre et se sentir mieux. Enfin, ça nous fait du bien souvent.
Si, des fois, je suis content et j'ai envie que le personnage, par exemple, il gagne ou quoi ?
Moi, oui, très souvent même.
Je sais pas, ça dépend. Je dis, bon allez, ça, bouge ton cul, dépêche-toi. Parce que je m'imagine dans l'histoire, mais le contexte que je vois n'est pas forcément le même que ce qui est décrit dans l'histoire.
Moi, j'ai lu Naruto un peu. En vrai, j'ai bien aimé un personnage, beaucoup même, et qui était pas forcément gentil, mais il était vraiment cool. Sauf que bah, il est mort. Parce qu'il a perdu un combat, et du coup, bah, j'étais dégoûtée.
Et moi aussi, j'arrive plutôt à mettre dans les livres quand c'est des livres avec des images. Et du coup, j'arrive un peu avec le texte à faire bouger les personnages qui sont dans l'image. Par exemple, des BD, quand ça s'arrête, du coup, j'ai envie qu'elle soit plus longue pour que ça continue.
Si c'est raconté à la première personne, je me sens dans le personnage. Et si c'est raconté d'un point de vue extérieur, je peux me sentir juste un personnage qui assiste à la scène, comme ça. Et à toutes les scènes, comme si j'étais tout le temps avec les personnages.
Moi, la plupart du temps, quand je lis un livre que j'aime bien, ben après, je m'imagine toujours la suite dans ma tête, même pendant la nuit.
Ben, en fait, quand je lis, je reste enfermée dans ma bulle, mais pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'ai terminé le livre ou même toute la collection. Donc forcément, il faut avoir des limites, mais il n'y a pas vraiment d'excès de lecture, je trouve. Enfin, on disait que je lisais trop, que je faisais que ça. Enfin, je m'isolais un peu socialement, mais j'ai toujours été comme ça, donc ça... Voilà. Moi, je trouve ça bien de lire.
Bah, des fois, quand la fin elle me plaît pas, bah, j'invente une autre fin.
Alors moi, les livres du collège, bah, ils sont longs. Et souvent, ils sont un peu ennuyants. Enfin, en tout cas, vu que moi, j'aime pas trop. Donc voilà. Par exemple, le dernier, c'était 20 000 lieues sous les mers. Le truc, il est énorme, donc ça me donnait pas très envie. Et du coup, je l'ai écouté en audio, en fermant les yeux. On se met plus dans l'histoire. Quand tu lis, tu dois penser à le lire. Alors que quand quelqu'un te le dit... Eh bien, tu peux t'imaginer le monde dans lequel l'histoire se passe. Comme ça, je peux m'imaginer ma propre histoire et mon propre décor. Par exemple, dès que j'ai vu les images du film et tout, bah, jamais j'aurais pensé que c'était comme ça. Pour moi, c'était pas du tout comme ça. Genre, je me suis imaginé à ma façon, quoi.
Ça permet de s'évader, en quelque sorte. Ça nous permet de rêver, mais tout en étant éveillé, en quelque sorte, en fait. Ça m'est déjà arrivé même de voir des gens qui ressemblaient à la description du personnage et d'y penser... Ça c'est... Je me dis, ah bah tiens, ça, elle ressemble à... Alors que j'ai jamais vu la personne, vu que c'est un livre et qu'il n'y a même pas de dessin, genre... C'est assez troublant. Et se dire qu'il y a d'autres personnes qui lisent la même chose et qui ont peut-être les mêmes sentiments que nous, c'est intéressant. Mais je pense surtout que c'est pas les livres qui ont besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin des livres.
Voilà, des enfants et des ados rencontrés par Caroline Pommès dans les rues de Moliette, dans les Landes. Il y a beaucoup de très jolies choses qui ont été dites sur la lecture. Ça vous est déjà arrivé, vous, à les Zénithères, de croiser un personnage de roman dans la rue, comme cette jeune fille? Quelqu'un qui ressemble à un personnage de roman?
Non, mais je trouve ça très très beau. Et une des choses que moi j'aimais beaucoup faire, donc en fait j'avais deux sœurs avec qui on était très proches en âge et on se passait les livres, ou de manière plus honnête, on se volait mutuellement les livres, mais ce qui faisait qu'on lisait à trois les mêmes livres, c'était de se dire ok, là on s'arrête et on essaye de dessiner les personnages ou les lieux et de voir comment à partir d'une même description on arrive à des résultats qui sont différents. Genre, non, la tour d'ivoire elle ressemble pas à ça. Non, la tenue de Bastien une fois qu'il est au pays fantastique elle ressemble pas à ça. Et à quoi ressemble Manche-Pierre? Il est comment le désert de Graugram, etc. Et ça c'est assez génial, et d'autant plus que si mon souvenir est bon, il y a vraiment une richesse quoi de détails dans le livre de N2 sur les textiles, sur les pierreries, sur même les couleurs des peaux des personnages, etc. Ce qui fait que, oui, il y a vraiment matière à essayer de faire des dessins derrière.
Vous aviez piqué ce roman à votre sœur, Alice Zénithère. Donc, vous avez vécu la même expérience que Bastien, finalement, qui se cache dans le grenier de son école pour lire ce livre qu'il a volé.
Oui, et ça, c'est assez... Justement, ça, c'est une des choses que je trouve assez géniale aussi dans le livre. C'est l'idée de s'aménager un endroit de lecture, mais qui est dans l'endroit de la lecture officielle, mais qui est pirate. Il est pas dans le grenier de chez lui, il est pas dans son lit, etc. Non, il va à l'école, là où on est censé nous apprendre à lire et nous faire lire des classiques, etc. Mais il lit un livre dont, évidemment, aucun de ses profs n'a jamais entendu parler, qui plus est un livre qu'il a piqué, et il utilise tous les vieux tapis de sport et tout ça, et les grosses balles pour s'aménager sa cabane. Et donc, voilà, dans le lieu de la lecture officielle et sacrée, il fait de la lecture pirate. Et ce que nous dit le livre, c'est que de cette lecture pirate, évidemment, on tire un plaisir et une intensité qu'on n'a pas forcément quand on est en train de dépiauter ensemble un classique à 30 dans une classe.
Ça fait écho avec ce qu'on vient d'entendre aussi, cet enfant qui a l'air de dire qu'on lui reproche de trop lire et que ça l'isole des autres. C'est assez étonnant d'entendre ça, parce que c'est valoriser la lecture chez les enfants à l'école, mais trop, Là, ah, c'est
ça, il y a une ambivalence. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambivalence des adultes. Bien sûr, c'est un loisir d'enfant sage. On sait que ça fait des bons élèves, on sait que voilà, ça peut fournir un bagage culturel, donc c'est valorisé. Et en même temps, il y a cette peur. C'est cette peur de l'histoire sans fin, en fait. Cette peur que peut-être on n'arrive plus à en sortir. Moi, c'était ce que me répétaient tout le temps mes parents. Sors le nez de ton bouquin. Ouais. Comme s'il y avait un risque que je sois aspirée, que j'arrive plus du tout à faire la différence ou que je puisse plus me lier avec des vraies personnes parce que j'aurais distribué tout mon capital empathique à Atreyu, par exemple.
Vous la rencontrez, Camille Jourdi, chez vos lecteurs et lectrices, cette peur de trop lire, de basculer dans un monde imaginaire?
Comme tout, enfin, j'ai envie de dire comme les jeux vidéo ou toute passion qui pourrait être un peu dévorante. Je pense que les gens, oui, ont peur que ce soit excessif et puis que ça, oui, que ça nous isole, enfin, que ça nous enferme et qu'on se ferme un peu à la réalité. Bon, pour l'instant, moi, je pense que ça m'a plutôt fait du bien et sauvé. Bon, alors pas forcément, comme je vous l'ai dit, l'amour pour les livres, parce que j'avais du mal à me concentrer, mais l'amour pour la fiction et les histoires, ça, c'est sûr.
On a entendu aussi à l'instant un plaidoyer pour le livre audio, qui peut aussi être une défense de la lecture à voix haute. Qu'est-ce que vous pensez de la lecture à voix haute, Camille Jourdi?
Moi, j'en pense du bien, puisque mon père m'a lu des livres très tard, mais vraiment très tard, j'ose à peine le dire.
Allez-y, quel âge?
Jusqu'à 15 ans, je sais pas. Et alors, je suis l'aînée, donc aussi je suivais un peu les lectures des autres, mais ça m'a donné goût à la lecture quand même, même si j'avais un petit peu du mal, moi, à sauter le pas, mais je trouve ça drôle qu'il nous ait lu des livres si tard, en fait.
Alice Zénitaire, vous aussi, vous aimez la lecture à voix haute,
je crois. Oui, et moi, je trouve que c'est hyper dommage, en fait, de la cantonner.
À la petite enfance.
Exactement. Mmh. Parce que même une fois qu'on sait lire, c'est un plaisir de se faire lire des histoires. Donc, moi, j'adore faire ça. Je le fais encore avec mes sœurs. Je le fais avec mon amoureux. Je le fais même avec les enfants à qui je lisais des histoires et qui maintenant sont suffisamment grands pour m'en lire à leur tour. C'est superbe, oui, parce qu'en effet, il y a une sorte d'abandon comme ça où on peut juste se laisser bercer. Et puis il y a un rythme, un souffle qui est donné par la voix de l'autre, une interprétation qui est proposée. Moi, je trouve ça génial.
Le soir,
c'est un partage, quoi.
Ouais, le soir en couple, plutôt que de lire chacun son livre, l'un des deux lit un livre à l'autre. C'est une bonne idée.
Moi, je l'ai beaucoup fait, ouais. Et je le recommande. Je trouve ça super.
Alors, c'est plus moi avec mes enfants, mais c'est vrai que pour moi, c'est une vraie émotion de leur faire. Enfin, de leur lire et de leur partager ce que moi j'ai aimé enfant. Ça me met dans une vraie émotion quand je vois leur réaction et que je vois que, voilà, que ça marche, que ça fonctionne, qu'elles sont émues, qu'elles pleurent. Ça, souvent, je fais celle qui ressent rien, mais je parle plus parce qu'en fait, j'ai la gorge nouée.
C'est compliqué déjà, de lire.
Oui, c'est ça. Et j'aime bien ce rapport-là avec elle, ouais.
Pour en revenir à l'histoire sans fin, c'est un film et un roman qui peuvent sembler un peu datés, on le disait tout à l'heure. Hein. Ça peut sembler un peu poussiéreux aux enfants et aux ados d'aujourd'hui. Aussi voudrais-je dire que dans Stranger Things, une série Netflix que les adolescents d'aujourd'hui affectionnent beaucoup, l'un des personnages, Dustin, connaît par cœur la chanson du générique, Never Ending Story. Stranger Things, on le précise, est une série récente, mais dont l'histoire se déroule dans les années 1980. Voici un extrait de la saison 3 de Stranger Things, Dustin pousse la chansonnette.
Barba, truc, Dorothée Barba, sur France Inter.
Turn around, look at what you see. In her face, the mirror of your dream.
Make believe I'm everywhere.
Never ending story.
Il avait à l'époque une coupe de cheveux vraiment spectaculaire. C'était Limahl, chanteur du groupe britannique Kajagoogoo, qui était l'interprète de ce tube mondial des années 80, Never Ending Story, bande originale du film du même titre. On a entendu d'abord la reprise dans Stranger Things, puis l'original. Avoir un dragon porte-bonheur avec soi est la seule façon de réussir une quête. Voilà une réplique que j'ai retenue de ce film. Alice Zeniter et Camille Jourdi sont mes invités pour parler de l'histoire sans fin. Et on va écouter un dernier extrait du film. Atreyu, le guerrier, croise la route d'une bête terrifiante qui s'appelle Gmork.
Je ne me laisserai pas tuer si facilement. Je suis un guerrier.
Ah, courageux guerrier. Alors affronte le néant.
Mais je le voudrais. Seulement je ne peux pas franchir les limites de Fantasia. Qu'est-ce qu'il y a de tellement drôle ?
Fantasia n'a pas de limites.
Mais ce n'est pas vrai. Tu mens.
Enfant stupide, ne sais-tu pas ce qu'est Fantasia ? C'est le monde de la fantaisie de l'homme. Chacune de ses parcelles, chacune de ses créatures, fait partie des rêves et des espoirs de l'homme. C'est pour cette raison qu'il n'existe aucune limite.
Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir ?
Parce que les gens ont commencé à perdre l'espoir et à oublier leurs rêves. Alors le néant envahit tout.
Qu'est-ce que c'est que le néant ?
Ce qui reste, le vide. Le désespoir détruit ce monde. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider.
Mais pourquoi ?
Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir.
Voilà, c'est le moment où l'on comprend que Fantasia est en fait créée dans l'imagination de l'espèce humaine et qu'on est dans les rêves humains. Alice Zeniter, le monde est en train de se replier sur lui-même parce que les gens ont cessé de rêver. Énorme trouvaille romanesque.
C'est un peu, j'ai l'impression, c'est un peu une des obsessions de ND, puisque il a fait un autre livre qui s'appelle Momo et qui raconte comment cette fois la société humaine a accepté de ne plus disposer de son temps. C'est devenu une sorte de donnée d'épargne. Les heures de temps sont comme ça épargnées sur des comptes et puis il y a des hommes gris qui passent et du coup évidemment il y a plus de temps libre. Pour le rêve, pour l'invention, pour l'amour, etc. Ça, tout devient extrêmement étriqué. Il y a une société grise et étriquée qui se met en place. Mais par ailleurs, cette scène, elle est terrifiante pour deux choses, quoi. La première, c'est que je pense que c'est une angoisse que même enfant on peut avoir, ou en tout cas moi que j'ai le souvenir d'avoir eu, c'est-à-dire s'apercevoir soudain que notre monde serait que une sorte de boule à neige dans la main de quelque chose, d'un être beaucoup plus puissant, et on n'est pas en fait, on n'est pas ce monde indépendant, ce monde central qu'on a l'impression d'être. Donc ça déjà c'est terrible. On est peut-être que la boucle d'oreille de la vache qui rit, pour revenir à une image du début. Et la deuxième chose, c'est que si une catastrophe approche, on ne pourra pas compter sur tout le monde pour aider. C'est ça que dit Gmork, en fait, à Atreyu. Il dit, moi, au contraire, j'aide la catastrophe. Je ne vais pas t'aider contre le néant. Ça fait mes affaires. Quand le chaos arrive, moi, je tire mon épingle du jeu. Et ça, c'est terrible parce que, voilà, moi, avec tout mon espoir d'enfant, je me disais, mais bien sûr que si une catastrophe frappe le pays fantastique dans son entier, tout le pays fantastique doit s'unir avec Atreyu pour le contrer. Et N2 nous dit, non, il y en a qui le verront pas, qui détourneront les yeux, puis il y en a qui aideront le chaos.
Le monde du rêve est en train de disparaître, Camille Jourdi, c'est ce que dit Gmork dans cette scène. Ça fait écho aussi à quelque chose qu'on a tous ressenti enfant, cette impression que les adultes ne jouaient pas. Et que donc un jour on allait arrêter de jouer et que l'imaginaire avait une fin.
Enfin, moi ça m'évoque l'idée un peu de grandir, mais avec l'idée que la magie s'arrête. Enfin, je trouve que quand on est enfant, on a un peu l'idée Bah si, la magie, ça existe quand même un petit peu. Et on regarde des adultes, et c'est vrai que ça fait pas toujours envie. Je me rappelle de ma fille, une fois, je lui ai dit, mais c'est pour toi, c'est quoi être adulte? Elle avait dû me dire, bah c'est se coucher tard, être énervée, et avoir jamais le temps. Je me suis dit, mince, si c'est ça que je donne, quel est l'effet que je fais. Enfin, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, j'avais pas très envie de grandir, et je pense que l'univers des adultes me renvoyait quelque chose d'un petit peu terne comme ça. Et là, j'ai l'impression que ça vient un petit peu dire ça, quoi, que se battre un petit peu pour rester, je sais pas, peut-être garder un peu une âme d'enfant.
Le film donc s'arrête là, mais le roman de Michael Ende va bien plus loin, Alice Zénithère. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite dans cette histoire?
Alors j'avoue que mon souvenir est pas tout à fait précis, mais
pour donner les grandes lignes, c'est terrifiant la suite.
Mais Bastien donc qui intervient, qui entre dans le pays fantastique, au lieu d'être uniquement ce sauveur qui d'un coup d'éclat, d'une trouvaille, d'une invention comme ça réussit à contrer le néant, va devenir en fait un dictateur du pays fantastique. Et ça, je trouve que c'est génial parce que encore une fois, ça pousse hyper loin cette réflexion sur notre désir d'intervention. Quand on dit ne va pas par là, tu vas te faire tuer, c'est une chose. Mais c'est-à-dire, ah oui, mais peut-être qu'en fait, si je pouvais entrer dans cette œuvre, dans ce film ou dans ce livre, alors je voudrais tout régir parce que j'ai le sentiment de bien mieux savoir que les personnages de l'œuvre de fiction dans laquelle j'entre. Et donc finalement, la métalepse ne permet aucune égalité, elle permet juste un truc de prise de pouvoir totalitaire et elle peut être terrifiante.
On n'est pas au même niveau que les personnages de la fiction.
On n'est pas au même niveau et surtout ça veut dire aussi que moi, lectrice, je suis Bastien Balthazar Bux pendant toute la première moitié du roman, c'est une évidence. Je suis identifiée à ce personnage et tout à coup, ce personnage, il devient terrifiant et il blesse mon Atreyu. Donc, il y a des montagnes russes émotionnelles quoi, dans cette expérience de lecture.
Autrement dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités.
C'est un peu ça.
Alice Zénithère, vous avez publié récemment un livre intitulé « Je suis une fille sans histoire » et c'est une réflexion sur la façon dont on raconte des histoires. Vous écrivez notamment ceci. Une bonne histoire, c'est l'histoire d'un homme remarquable qui fait des trucs, de préférence violents. Quelque chose vous dérange-t-il dans ce roman? Parce qu'après tout, c'est un garçon qui sauve le monde.
Oui, et c'est vrai que la seule figure féminine qu'on a, celle de la petite impératrice, je ne sais même pas si on pourrait tout à fait la compter comme un personnage féminin, parce qu'elle est hors du monde, c'est juste une sorte de... la version humaine de sa tour d'ivoire, mais c'est juste une sorte de grande lumière blanche ou de minuscule lumière blanche dont on nous dit qu'elle représente le cœur du pays fantastique, mais quels sont ses enjeux, quelle a été sa vie, etc. Ça n'existe pas, quoi. Elle est juste comme ça, voilà, c'est une lumière. Donc oui, c'est un livre de petits garçons, bien sûr, de petits garçons qui font des choses ou qui rêvent de faire des choses.
Mais vous vous y êtes identifié, ça prouve bien que c'est pas un problème, le
non,
genre du personnage.
Le problème est pas du tout là. Le problème, il est que l'inverse est très difficile. Moi, j'ai adoré m'identifier à des garçons pendant mes lectures, faire ce que le romancier Tristan Garcia appelle un saut de genre. J'ai adoré, ça me sortait de mon corps, ça me sortait, qui plus est, au moment de l'enfance, qui est un moment d'extrême impuissance, en fait. On dépend tout le temps des adultes, des parents, il n'y a rien qu'on puisse vraiment faire soi-même. Et tout à coup, par la lecture, on peut se projeter dans mille autres expériences et mille autres corps, c'est splendide. Mais après, je me dis, ah mais c'est marrant, parce qu'en fait, c'est toujours dans le même sens. Les petits garçons avec qui je grandissais, ils ne se projetaient pas dans des histoires d'héroïne.
Mais il y a aujourd'hui...
Ben non, il n'y en avait pas.
Il y a aujourd'hui beaucoup de garçons qui se projettent dans Mortel Adèle, par exemple, la bande dessinée de Monsieur Tan. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Le saut de genre existe-t-il aujourd'hui, Camille Jourdi?
Dans les deux sens. Plus. Mais effectivement, en fait, nous, on a l'habitude, enfin, les filles, c'est-à-dire que nous, il n'y avait pas tellement d'autres alternatives. Mm. Moi, je me suis tout le temps identifiée à Tom Sawyer, à Atreyu, enfin, tous les dessins animés. On s'identifiait aux petits garçons sans aucun problème, parce que, de toute façon, c'est essentiellement ça qu'on nous proposait. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus de choix. Alors après, est-ce que les petits garçons s'identifient plus facilement aux petites filles? Ça, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, je pense qu'il y a énormément plus de choix qu'à l'époque, ça c'est sûr.
Les fictions ont-elles une prise sur le réel? C'est ça la question que pose cette histoire, l'histoire sans fin finalement, Alice Zénithère. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Les histoires changent-elles quelque chose au monde autour de nous?
Les histoires nous éduquent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, je dis pas que c'est leur but. Toute fiction n'a pas un but éducatif ou moralisateur, etc. Mais dans la manière dont on les traverse, dans la manière dont justement dont on vit des montagnes russes émotionnelles, on se forme, on en apprend sur nous, c'est-à-dire tel événement peut me créer ça, mais aussi sur la manière dont d'autres que nous fonctionnent. Sur tiens, dans cette situation, Bastien il ressent ça, ça veut dire que d'autres humains peuvent ressentir ça, placé dans... Bien sûr qu'on apprend beaucoup de choses, et parfois c'est pas condensable en deux ou trois phrases, je peux pas dire tiens, de l'histoire sans fin, j'aurais retiré ceci ou cela précisément. Mais je sais que j'ai grandi. Je sais que mes connaissances ont grandi et ma manière de me lier aux autres a grandi aussi de cette lecture.
À partir de quel âge recommandez-vous ce roman de Michael Ende ?
Eh ben, franchement, je pense que ça dépend des capacités de lecture.
C'est un gros bouquin.
Ouais.
Publié chez Hachette. On va dire 9-10 ans.
Ouais. Et puis, et puis sous toutes les formes possibles. C'est-à-dire que à voix haute, voilà. Pourquoi pas.
Et le film, il dure 1h30. Il est disponible sur plusieurs plateformes de vidéo à la demande. Camille Journy, vous le recommandez à partir de quel âge ?
Même 5 ans, je pense que ça va. Enfin, après, c'est...
En fonction de la durée d'écran accordée par
oui,
le parent.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est pas...
voilà.
Oui. Il y a quand même la mort du cheval.
Alors, effectivement, les effets spéciaux sont un peu datés. Et, mes filles me l'ont bien dit quand elles l'ont vu. du coup, ce qui fait peur fait peut-être un peu moins peur, je ne sais pas.
Et pour la petite histoire, Ende, le nom de cet écrivain, ça signifie la fin en allemand, mais il prétendait qu'il n'avait pas fait le lien avec le titre de son roman, L'histoire sans fin. C'est véridique. Il est temps à présent de feuilleter quelques nouveautés au rayon jeunesse des librairies. Voici Denis Chessoux et ses conseils de lecture.
Dorothée Barba sur France Inter. Là tu lis mon petit loup.
Oui, c'est parti Dorothée pour l'actualité du livre pour enfants qui débute avec Le dernier bal de Jean Claverie aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est pour les 4-7 ans.
Nous étions bien dans notre coin de forêt. Chacun avait sa maison dans un tronc d'arbre où l'on gardait graines et fruits séchés.
Mais une pancarte confirme les rumeurs. La guinguette sera démolie. L'étang asséché, goudronné, pour faire un parking. Comment les souris peuvent empêcher le redoutable Ratiboise de mettre son projet à exécution ?
Il faut réunir du monde. Une affiche va tenir ses promesses. Ce soir, bal à la guinguette. Toutes les souris arrivent en patins sur l'étang gelé.
Alors on parle pétition, tribunal, on stoppe les engins, les médias. Et puis Gaston joue de l'accordéon et fait tourner les cœurs. Mais à la fin des chansons, un craquement sinistre. Ratiboise est aux manettes de son bulldozer pelleteuse.
On n'en veut pas de tes magasins croque-tout qui cassent nos vies, lui crie Jules avec témérité.
Ratiboise avance, des coups de godet et l'accordéon rend son dernier souffle. La guinguette disparaît. Mais après le sauve-qui-peut général, l'appel trop lourde casse les poteaux et s'enfonce dans l'eau en brisant la glace. Alors là, c'est la panique chez Ratiboise.
Si tu promets de renoncer à ton bazar, de reconstruire la guinguette, de tout réparer, on te jette une bouée et on te sauve.
Le gros rat qui ne sait pas nager, queen, et signe. Joli dénouement hein, sur un sujet d'actualité tout à fait récurrent, la destruction du vivant, d'un art de vivre pour apporter une modernité déshumanisante. Dans cette histoire de rébellion fantaisiste et légère, eh ben un vrai fond de solidarité écologique.
D'union qui fait bien la force.
Eh oui, et de la ruse contre le pouvoir de l'argent. Et la patte de Jean Claverie, un de nos très grands illustrateurs français qui a donné naissance aux Beaux-Arts de Lyon et à l'école Émile Cole, à de nombreux créateurs aujourd'hui en piste. Alors couleur, angle, expression, chaque trait porte sa marque, faisant coexister la tradition littéraire avec la modernité du regard et de l'expression, avec le dessin comme façon de penser au même titre que les mots. Le dernier bal de Claverie aux éditions Albin Michel Jeunesse, c'est pour les 4-7 ans. Mes deux mamans, signées Bernadette Green et Anna Zobel aux éditions Talent Haut, à partir de 4 ans. Aujourd'hui, Nicolas vient jouer chez Elvie. Alors, ils adorent passer du temps ensemble. Mais il y a une question qui lui brûle les lèvres.
Dis, Elvie, c'est laquelle ta maman ?
Oh bah, rien de plus simple pour Elvie.
Bah, les deux sont mes mamans.
La réponse ne convainc pas Nicolas qui surenchérit.
Mais c'est laquelle ta vraie maman ?
Bah, elle te l'a dit, Nicolas, les deux.
Ben, ta vraie maman, c'est celle qui t'avait dans ton ventre. C'est laquelle ?
Alors, Elvie décide de s'amuser de la situation.
Bon, c'est celle qui est en jean.
Alors, voilà qui va éclairer Nicolas. À moins que les deux mamans en portent un. Bon, il faut une autre caractéristique.
C'est celle qui a les cheveux bruns.
Évidemment, les deux ont les cheveux bruns. Et pour Elvie, ce n'est que le début de la surenchère.
C'est celle qui sait tenir en équilibre sur un doigt.
Ouais, personne ne peut faire ça, se dit Nicolas.
Ma vraie maman, en fait, elle est pirate. Ses poches sont remplies de pièces d'or et elle a un perroquet qui s'appelle Tony. Elle parle couramment le gorille.
Alors là, c'en est trop. Nicolas s'impatiente. Allez, Elvie, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures.
Bon, ma vraie maman, c'est celle qui me prend dans ses bras quand j'ai peur, celle qui me borde dans mon lit, celle qui me fait un bisou le soir.
Et cela inspire une dernière question à Nicolas.
Mais ça, tes deux mamans le font, non ?
Alors, mes deux mamans nous fait entrer dans le quotidien d'une famille aimante, attentive et protectrice. Et elle est racontée à travers des illustrations chaleureuses et surtout les mots d'une petite fille espiègle, bien décidée à se jouer de la question de son amie en faisant appel à toute la richesse de son imagination.
Et quoi de plus touchant que cette facétie enfantine ?
Qui rend hommage au super pouvoir des deux mamans d'Elvie, qui viennent traduire par la fantaisie toute leur indépendance, leur sensibilité et leur prévenance. Alors, en bref, mes deux mamans offrent une lecture tendre et engagée pour évoquer l'homoparentalité et plus généralement les liens indéfectibles qui unissent une famille, toujours à hauteur d'enfance. C'est signé Bernadette Green et Anna Zobel aux éditions Talent Haut. C'est à partir de 4 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald de Nichessou. Nous vous souhaitons de belles lectures. Vous savez tout, Dorothée.
Merci beaucoup Denis Chessou. On clique à la page de L'as-tu lu mon petit loup sur le site de France Inter pour retrouver ses conseils de livres jeunesse. On approche du terme de cette émission, même si Alice Zénitaire et Camille Jourdi auraient pu nous parler sans fin de l'histoire sans fin. J'ai une dernière question à vous poser à toutes les deux. Question rituelle dans Barbatruc. Quelle est l'odeur de votre enfance, Camille Jourdi?
Je pense aux odeurs de certains jouets qu'avaient certains jouets. Vous voyez, les petits jouets en silicone ou comme les petites poupées qui ont cette petite odeur de vanille. Et ça dure.
De vanille?
Mais oui, vous voyez pas les petites poupées Corolle un petit peu? Ça a une odeur. Si, ça a une petite odeur parfumée, les jouets pour enfants. Et puis ça dure très longtemps parce que j'ai gardé certains de mes jouets et je les ai ressortis. Et ils sentent encore 30 ans après. Ouais.
Alice Zénitaire, même question. Quelle est l'odeur de votre enfance?
Alors, ça va être beaucoup moins ragoûtant. pour moi, c'est celle de la vase. Parce qu'il y avait un plan d'eau dans le jardin de mes parents. Et bien qu'ils aient tâché de nous tenir un peu éloignés...
du marécage, de la mélancolie.
Voilà, pendant qu'on grandissait, c'était évidemment le point brûlant de tous les jeux, quoi. Il fallait aller dans les roseaux et prétendre qu'on était des exploratrices perdues. Il fallait construire des radeaux sur lesquels on mettait des poupées en espérant que ça coule pas. Il fallait essayer d'aller pêcher les grenouilles, etc. Et ça voulait dire, il fallait après enlever la vase des vêtements et porter cette odeur et essayer de mentir aux parents en disant non, on n'est pas du tout allé dans le plan d'eau alors que toutes nos fringues criaient par effluves comme ça que bien sûr que si, on y était allé.
Des jouets qui sentent la vanille et l'odeur de la vase. On met ces deux parfums sous cloche, ils viennent rejoindre notre inventaire olfactif de l'enfance. Comme un empire dans un empire, c'est un titre mis en abîme également. C'est le dernier roman d'Alice Zénitaire disponible chez Flammarion. Je recommande aussi ce texte qui était au départ un spectacle. Je suis une fille sans histoire, édition de L'Arche, une réflexion sur la place de la fiction dans nos vies. Et c'est un spectacle qui reviendra sur scène, j'imagine, dès que possible.
Oui, à la saison prochaine.
On croise tous les doigts et les orteils. Cette merveilleuse BD s'appelle Les Vermeils. Elle est signée Camille Jourdi chez Actes Sud BD. J'adore cette histoire, on y croise un crocodile en blouson en cuir, ainsi qu'un renard qui se déguise en chou à la crème. Je recommande aussi pour les plus jeunes cette fois, Caché ou pas, j'arrive, un album chez Actes Sud BD, co-signé avec Lolita Séchant. Un grand merci à toutes les deux, merci beaucoup, à bientôt sur France Inter.
Merci.